jour J, heure H, minute M, seconde S.
C'est la fête à la friche, les tables sont dressées et le buffet est merveilleux. C'est la fête de clôture des expositions Poésie et Peinture et Par les yeux du langage. Exposition que vous avez certainement dû voir en allant baguenauder dans la ville, en allant à la Vieille Charité, en allant dans les 42 galeries marseillaises qui exposaient Par les yeux du langage. D'un art, l'autre est une série d'expositions qui déjà depuis 89 circulent dans toute la ville, cinéma, peinture, cinéma, danse tracée, et on poursuit maintenant donc avec Poésie et Peinture, une exposition qui a commencé le 12 février. L'intérêt était de montrer les relations qui se sont tissées entre la poésie et les arts visuels tout au long de notre modernité. Alors pour cette soirée, nous avons un invité spécial, c'est Sarenko, c'est un artiste plasticien. Il reçoit pour nous ce soir et il nous invite à découvrir 12 idoles, 12 de ses amis poètes. Et puis nous pourrons aussi retrouver nombre d'autres invités, entre autres Monsieur Poitvin, Monsieur Julien Blaine, Monsieur Blisten et d'autres encore dont je vous laisse la surprise de découvrir. En attendant, pour se mettre dans l'ambiance de cette soirée, je vous propose un poème sonore de Jean-François Bory. Jean-François Bory, celui qui dit de lui qu'il a choisi la supercherie d'être intelligent et qui maintient qu'il n'y a pas de progrès humain autre que moraux. Nous allons donc écouter Jean-François Bory.
Bientôt, un bruit de page. Bientôt, le livre semblera gâchis. Gâchis. Gâchis de la vieille habitude des pages, comme si l'écriture, comme si la pensée était plus rare que le papier, et puis, aimer, et alors, pourquoi n'enveloppe-t-on, mais jamais, une botte de poireau dans un papier blanc ? Le livre, nouvelle ponctuation, ou la page, sera une matière, un dit, un livre, où l'écriture sera une étrave dans chaque page, et le mouvement de la page qui retombe sur la page, déferlant en brisure de livre, irisant la mémoire, mémoire qui retombe en brisure, sur ces brisures de brisures de livres, mais l'étrave, mais la page, mais cabrée, mais la page cabrée qui retombe, et le temps qui circule à nouveau, passant et passé dans le démembrement blanc du livre, chargé de mots, et l'on voit qu'ils sont gais ces mots, ou éloignés, ou proches, ou abstraits, et de nouveau éloignés, Mais le livre. Mais le livre. Mais le livre. S'enfle. Et s'éploie et s'ouvre et crève dans la distraction d'une matinée ensoleillée. Mais le livre, c'est aussi la distraction, l'environnement. Et on est en Afrique maintenant, ou en Asie. On est où se trouve le livre. On est dans l'enfance ou assis sur un banc avec le livre. Où on n'est plus déjà. Et l'étrave de l'écriture entre en plein livre. Et reste le livre seul, c'est-à-dire seul avec le livre. Mais l'étrave, mais le livre, et l'étrave, et le livre à perte d'horizon, mais l'étrave, mais le livre qui se feuillette et se refeuillette, se double et se dédouble. Page sur page, pli sur pli, mais l'étrave, mais le livre, et puis le livre, et après, et encore, et toujours. Le livre, mais l'étrave, dans tout ce blanc, mais le livre, mais l'étrave dans la réverbération des pages, alors, un désir d'enfance enfin réalisé, être à bord. Du livre. Et le lombard qui est avec moi accoudé au bord du livre me demande pourquoi je ne parle pas de ceci et de cela et pourquoi nous sommes avec ces hallebardes à la main, la guerre et sans argent et je mets l'étrave, mets le livre. Mais l'étrave lui répond que Colomb n'avait pas. Colomb, qui pourtant, on s'en doute, ne s'était pas beaucoup amusé avant de partir, n'avait pas parlé de lui au roi d'Espagne, mais seulement de l'Amérique. Et le livre, et l'étrave. Alors il dit, le lombard, c'est un peu un livre en Espagne. Et l'étrave, et le livre, et je dis, ou peut-être aux Amériques. Et on rit, et on regarde l'étrave battre contre le livre, et le livre battre contre l'étrave. Et là, comme ça, au milieu du livre, nous avons, le lombard et moi-même, un peu peur. Et on essaye bien de se rappeler de la petite Austin du début, mais rien que le livre. Et on a encore un peu, ou un tout petit peu, plus peur de crainte, et l'étrave. Et le livre, crainte que l'objet du livre ne soit le livre-objet, Et éblouis, nous dérivons, le lombard et moi-même, pendant des semaines, dans le livre. Et nous essayons, le lombard et moi-même, de nous donner des images, comment nous avons fait l'amour et comment nous avons fait la guerre, mais le livre et l'étrave. Dans le livre et certaines nuits, le livre dans l'étrave. Et un matin, lavé de mémoire et d'avenir, le lombard et moi-même, nous nous éveillons dans le livre et l'étrave et le livre. Mais tous les voyages n'aboutissent pas, me dit le lombard. Et l'étrave et le livre. Tous certainement pas, dis-je, mais et l'étrave. Chacun séparément, oui. Et le livre. Et la fraîcheur du livre matin nous vient sur la figure. Et où sommes-nous, me demande le lombard, dans le livre ou hors du livre? Et je me le demande bien. Mais l'étrave qui ouvre le livre, multitude en nain, et l'étrave dans chaque page, et le mouvement de la page qui retombe sur la page, déferlant en brisure, de brisure, de brisure, de brisure, de livre. Et un matin, le lombard, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une olive. Une olive. Une olive dans le livre. Oui, dis-je. Et l'étrave, et le livre, et le noyau du livre sur le pont de l'olive, ou vice-versa, et bientôt, du livre, nous apercevons la petite ostine rouge, et les feux de la ville, mais le livre, et l'étrave, et le livre, et l'étrave, et la dérive, 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 dérive. Et quelle est cette petite tache rouge qu'on voyait tout à l'heure? Et l'étrave, et le livre. Et le lendemain, je demande au lombard, qu'est-ce qu'il avait trouvé sur le pont? Quel pont, il me dit. Et l'étrave. Et le livre. Et l'étrave. Et bientôt, le livre.
Poésie, poésie sonore, au rythme des pages qui se tournent, c'était Jean-François Bory. Nous attendons maintenant l'arrivée des idoles de Sarenko. Cette arrivée, d'ailleurs, va être commentée par Christian Poitevin, adjoint au maire et délégué à la culture. Alors nous sommes tous dans cette attente, frémissant, pour savoir ce qui va se passer. Toutes ces idoles, qui sont donc au nombre de 12, vont arriver à la Friche Belle de Mai. Vous savez que la Friche, c'est les anciens locaux de la Saïta, donc de l'usine de tabac. C'est plusieurs milliers de mètres carrés avec des hangars, avec des rails, avec beaucoup, beaucoup d'espace. Et donc, ces idoles, ces 12 idoles, vont arriver sur un train qui va donc être véhiculé sur des rails. Et nous l'attendons avec impatience pour l'attendre. Musique. What? Toujours en direct de la friche et toujours frémissant d'attente, on va continuer en musique. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous dire que Sarenko est un plasticien italien et que donc il a décidé de faire le portrait de ses amis au travers de statues qui sont des idoles. On lui posera la question tout à l'heure de savoir pourquoi ce sont des idoles. Je vous donne la liste de ces noms qui sont célèbres. Emmett Williams, Pierre Garnier, Edgardo Avigo, Jean-François Bory, que nous venons d'écouter tout à l'heure, Alain Arias-Misson, Ladislas Novak, Bernard Heitzek, Paul Devry, Sarenko lui-même, Julien Blaine, Ugo Carella, Eugenio Micini. Alors j'espère que vous allez les entendre. 13 tambours africains accompagnent l'arrivée du train, donc des 12 idoles de Sarenko. Je vous laisse les écouter.
Ça marche là ? J'entends rien. Eugenio Micini, Ugo Carega, Sarenko, Paul Devré, Bernard Heitzek, Ladislav Novak, Alain Arias-Misson, Jean-François Bory, Edgardo Antonio Vigo, Pierre Garnier, Emmett Williams. Alors Bernard Blissel, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ces idoles ?
Quelque chose qui est au-delà de la fonction politique et de la fonction de directeur. Quelque chose que finalement, on peut le dire à la radio, personne d'autre que toi et moi partagera.
Est-ce que vous pensez qu'on a retissé quelque part une véritable fonction historique par rapport à ça ?
Je pense que le travail des musées, alors c'est en homme de musée que je parle, que le travail des musées c'est d'aller trafiquer l'inconnu pour trouver du nouveau. C'est pas de moi ni de toi, c'est de Rimbaud. Et je pense que cette exposition, c'est une brèche ouverte dans cette dimension-là de l'histoire, sur laquelle d'ailleurs nombre de gens se sont mis à travailler. Il n'est qu'à voir les programmations des expositions dans les 2-3 ans qui viennent, ou même celles immédiates qui reprennent des sujets, des gens, des noms sur lesquels on n'avait jamais travaillé. C'est bien de travailler sur le refoulé de l'histoire, parce que c'est finalement ça qui fait que les gens comme moi sont au plus près des artistes. Sans ça, ils ne sont qu'au plus près de sédiments dont ils sont davantage les complices que les expiateurs. Et je crois que cette exposition marquera, quoi qu'il en soit, essentiellement à la fois une date dans le travail des musées, au-delà des musées de Marseille, dans ce que peut être la conscience critique d'un homme de musée, dans son parcours et dans son cheminement.
C'est vrai. Il reste combien de temps pour aller encore voir cette exposition ?
Il ne reste que jusqu'à dimanche 17h.
Dimanche 17h inclus. Attention, il n'y a plus beaucoup de temps, n'est-ce pas Marie-Laure ? On ira encore une fois tous les deux. Hein ?
En soirée alors ?
Soirée, samedi, j'en cherche d'autres. Oui, Bernard Gavotti qui a eu aussi une importance considérable dans cette exposition. Bernard, qu'est-ce que ça a été pour vous, alors, finalement, par les yeux du langage ?
Beaucoup de soucis.
Et sinon, sur le plan des résultats, 47 galeries qui ont fonctionné dans cette affaire, ça représente quoi ? Un succès ?
Oui, je crois un intérêt majeur pour... Je crois l'ensemble effectivement des partenaires et un petit peu un modèle de collaboration avec l'ensemble des gens qui font le paysage artistique de la ville.
C'est bien de finir par une fête, un grand moment historique.
Oui, et puis c'est surtout bien de voir enfin arriver ces idoles qu'on a tant attendues. Et...
On les a attendues pendant toute l'exposition et comme toutes les idoles, elles arrivent à la fin. Et vous, monsieur Ponsard, du CIPM ?
C'est arrivé, c'était absolument merveilleuse.
Un peu bouleversant.
Assez bouleversant, c'est très beau et on attend. Moi j'ai hâte d'être à l'intérieur pour voir les éclairages et les voir de plus près.
C'est bien d'avoir un moment dans sa vie pour renouer l'histoire parce qu'on a la possibilité de le faire.
Ah ben, c'est des moments essentiels. C'est des moments sur lesquels on peut revenir là-dessus. Ça a été fait maintenant. Et tous les autres sont des copieurs.
Jean Caillan, est-ce que vous connaissez Vagrish Bashanyan, un très grand poète arménien, réfugié aux États-Unis ?
Oui, bien sûr. Il a passé 10 années terribles, personne ne voulait croire à ce qu'il faisait. Et puis il y a un petit cercle d'amis qui croyaient vraiment, qui l'ont aidé matériellement. Et puis maintenant, il est devenu la star que l'on sait. Tant pis, il profite du système, mais moi je ne lui jetterai pas la bière parce qu'il a tellement chié pendant 10 ans qu'il mérite vraiment, vraiment de continuer.
On a dit que vous prépariez des rencontres à propos des nouveaux poètes arméniens dans septembre ou janvier 1994.
J'ai proposé qu'on fasse plutôt une rencontre de poètes arméniens et de poètes azerbaïdjanais à Marseille. De les mettre autour d'une même table, et ça serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus original que de faire venir que des poètes arméniens. Et je pense qu'on trouvera aussi bien à Bakou qu'à Erevan des gens qui accepteront de venir.
J'espère qu'on vous entend encore grâce au tambour. Je continue à balader. Alors, jeune architecte qui est là, comme ça, ici, ça lui fait quelle impression de voir l'histoire enfin renouée ?
Laquelle histoire ?
Celle de la poésie contemporaine, celle qui a un siècle.
Mais c'est Marseille est le berceau de toutes les civilisations et de toutes les formes d'art. Et il semble que ce soit la capitale de la forme d'art la plus complète et la plus libertaire qui soit, qui est la poésie.
C'est normal, c'est normal. Je cherche par là des galeries qui ont travaillé là-dessus. Norbert Dufort, la galerie de l'école a eu un rôle très important dans cette affaire.
C'est vous qui le dites, non ?
Je le dis en effet.
Moi aussi.
Qui vous présentiez ?
Jean-Luc Parent. Votre ami Jean-Luc Parent.
La grande installation, absolument, la grande installation avec la Jaguar, les boules.
Oui, tout à fait, une installation inédite.
Vous savez que les musées de Marseille ont racheté pour une bouchée de pain cette merveilleuse installation ?
Ben oui, qui a été en fait une commande de la ville et qui finit dans les musées, moi je trouve ça tout à fait bien.
Je trouve ça très bien aussi. Voilà, les tambours viennent de terminer, mais en les pistonnant un peu, on va peut-être leur demander de continuer.
Alors dans les conditions d'un véritable direct, je vais vous proposer de me suivre jusqu'au studio pour qu'on puisse continuer cette conversation, puisque le train est arrivé, les idoles sont arrivées, et c'est les conditions d'un véritable direct. Je suis suivie par qui ? Par Christian Poitevin ou par Julien Blaine ?
Mais vous savez, maintenant, depuis quelque temps, je signe Julien, entre parenthèses, CHP Blaine, quand j'écris. Et quand je suis élu de tutelle, je dis que je m'appelle Christian, entre parenthèses JB Poitevin, comme ça tout est clair.
Tout est clair, bien, ben, on va poursuivre cette discussion alors au studio. Et non, je n'arrive pas à ouvrir la porte, ça c'est vraiment un véritable direct, donc on fait le tour et on va y arriver. La friche est pleine de monde, c'est super. Et nous allons donc continuer cette discussion à table. C'était bien le micro comme ça, hein, le micro-trottoir ?
À l'arrivée était absolument incroyable. Je veux dire qu'il y a des émotions et je crois qu'on ne peut pas s'apercevoir que l'émotion est forte si on n'arrive pas à nouer en même temps une fête par rapport à un moment historique. Je crois qu'il est bien que les gens puissent entrer dans la friche. C'était quel hangar ça, Philippe Foulquier ? Il est passé où ?
On est arrivé, ça y est, on est réinstallé au studio. C'était ce micro-trottoir, on appelle ça, je ne sais pas comment on peut appeler, mais c'était bien là.
Oui, là c'était vraiment parfait. Non, je crois qu'il y a des moments absolument considérables. Je veux dire, pour moi c'est une émotion forte. Je crois que cette ville, une fois de plus, m'a fait un cadeau qui est personnel et qui en même temps rejaillit sur l'ensemble de la population marseillaise. Je crois qu'il y a très peu de villes qui peuvent renouer de temps en temps avec l'histoire. On a bâti là une affaire historique. Et je crois qu'il était très important de finir cette exposition qui aura duré quelques mois avec cette fête-là qui réunit tous les Marseillais qui veulent bien nous rejoindre, s'ils le veulent encore, à la friche industrielle de la Belle de Mai. On en a encore pour un moment.
Alors nous avons aussi devant un micro Sarenko qui nous a rejoint. Et avant de vous donner la parole, Sarenko, j'aimerais savoir, Julien Blaine, ce que représentent pour vous ces idoles ?
Mais vous savez, il y a une histoire qui a commencé il y a très longtemps avec le coup de dé de Stéphane Mallarmé. Et à partir de cette histoire-là, il y a eu des avant-gardes qui se sont succédées, les plus importantes étant les futuristes et les dadaïstes. Et puis un jour, au début des années 50, la nouvelle avant-garde a commencé. C'est le travail remarquable qu'a réalisé aujourd'hui Bernard Blisten et Bernard Gabotti pour montrer ce qui se passait. Et dans cette histoire-là, on a, qui passe comme ça sur ce train, les principaux personnages qui, des débuts des années 50 à ce jour, ont été les principaux animateurs de ces poésies qui s'appellent tantôt concrètes, tantôt visuelles, tantôt sonores, tantôt élémentaires, tantôt performances, etc. Et ils sont tous passés. Ils viennent de partout, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, et ils sont tous là. Et je crois que le travail de Sarenko, là, est un travail tout à fait considérable.
Sarenko, est-ce qu'on peut vous poser la question d'essayer de nous décrire ce que sont ces idoles, parce qu'il y a des gens qui écoutent là en ce moment cette émission et qui ne voient pas. Alors c'est très dommage.
Je pense que la chose meilleure pour moi, c'est de lire un texte que j'ai réalisé et j'ai écrit aujourd'hui et qui parle de cet aspect final de l'exposition Poésie repentrie. Donc je lirai ce texte. Le futurisme, en plus long, en temps, avant-garde historique du siècle, a duré 37 ans, 1909-1946. Et s'est achevé pour une seule raison, la mort de Marinetti. La nouvelle poésie, celle qui prend son origine de la poésie concrète, en passant par la poésie visuelle, la poésie sonore, la poésie élémentaire, la poésie action, la nouvelle écriture, logomotives, etc., a aujourd'hui 40 ans, 1953-1993. Et nous sommes encore vivants, malgré les marchés, malgré les critiques d'art, malgré nonobstant. Car nous aurions une vie probablement encore très longue. La nouvelle poésie est déjà et sûrement en plus long, en temps, avant-garde historique contemporaine de ce siècle. Nous avons fait quelque chose qui est sorti du papier, quelque chose qu'on dit Julien Schiaspiblen, qui a été une chute verticale du mot. L'Europe nous a fatigués et nous sommes devenus immédiatement multiraciaux, sang mêlé, citoyens du monde, métis, africains. C'est pour cette raison que les idoles sont nées à Malindi, Kenya. Elles sont nées d'un auteur qui est né sous le nom d'Isaïe Mabellini, puis qui est devenu Sarenko, puis qui est devenu Aziz, Isaïe Mabellini, Sarenko, Sharif, et aujourd'hui qui se nomme, c'est provisoire, Mau Mau Sarenko Gitai. Les idoles sont les poètes auxquels je suis lié pour de différentes raisons. Mori, Plen, Carrega, Micini, Novak, Arias Misson, Williams, Garnier, Aizik, Vigo, Debré. Nous avons mangé ensemble, bu ensemble, écrit ensemble, publié ensemble. Nous sommes même disputés les uns contre les autres. J'ai laissé mes amis poètes tout seuls au combat contre l'idiotie de l'Europe. Je suis devenu un citoyen tanzanien résident au Kenya. Je fréquente les Mau Mau et les chefs musulmans. Je navigue entre les tribus Maasai et les Payotes Bajuni. L'idée est celle du voyage, safari et du retour à la maison. Après les larcènes effectuées par Picasso et Matisse, les poètes africains ont pardonné aux vieux hippopotames européens blessés et mal dans leur peau et ont commencé à expédier leur message du paradis. Chez nous, le temps est beaucoup plus long. Nous, les Africains, ne connaissons pas encore, par chance, la bureaucratie des arts et des lettres. L'idée est celle du voyage, safari et du retour à la maison. Nous, les Africains, nous aimons le vieil hippopotame et on voudrait le faire venir chez nous pour lui présenter tous nos amis, nos parents et tous les habitants de notre village circulaire bâti de paille, de boue et de merde. Vous n'avez pas les mains assez habiles pour tresser les petites perles. Nos femmes, oui. L'idée est celle du voyage, safari et du retour à la maison. Marseille, Vieux-Port, 19 mai 1993.
Merci, Sanko.
Vieni, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip, do 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 do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, bum. Do 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 do, chibum, chibum, bum. Do 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 do.
Et oui, nous sommes en direct de la Friche Belle de Mai, comme je présume vous pouvez l'entendre, comme vous le venez de l'entendre avec ce témoignage de Sarenko qui était très fort. Ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons tout à l'heure avec Julien Blaine. Mais en attendant, et pour continuer cette soirée, une rencontre avec Henri Chopin, précurseur de la poésie sonore, avec deux complices, Hatzek et Dufresne. D'Henri Chopin, nous entendrons pour commencer un de ses poèmes sonores, puis nous le retrouverons dans une interview en compagnie de Chantal Dumas lors d'une rencontre au GMEM, où il présente les débuts de la poésie sonore ainsi que Ursonate de Carl Schwitter, que nous aurons aussi le plaisir d'écouter. En tous les cas, tout de suite, Henri Chopin.
Henri Chopin a refait le ventre de Bertini pour trois vitesses et sept superpositions. En février 67. Thank you.
Est-ce que vous pourriez évaluer le nombre de poètes sonores actuellement en 1993?
En 1993, il y en a à peu près 200 dans le monde, mais une vingtaine vraiment de très intéressants. Et il se trouve que les centres peuvent être à Seattle, à Berlin, à Florence, à Naples, à Paris, à Stockholm. C'est simplement des petits saints centres partout. Et ces petits centres ont un impact considérable. Contrairement aux écoles de poésie ou aux chapelles qui ont duré 4 ans, 5 ans, comme les futurismes, d'abord en Italie, puis ensuite à Leningrad, Saint-Pétersbourg plutôt, ensuite à Varsovie, mais ça a duré 4, 5 ans maximum. Le dadaïsme était surtout en deux parties, la première à Zurich en 1916, et c'était surtout composé de déserteurs de l'armée allemande, des gens qui venaient d'Alsace ou de Lorraine, et qui étaient, après la guerre de 1870, citoyens germaniques. Par contre, le second groupe à Berlin, avec le furieux Raoul Hausmann, avec la revue Der Sturm, La Tempête, avec le metteur en scène Piscator, avec Johannes Bader, pas le terroriste, mais un autre, ces gens-là étaient furieux contre le gouvernement allemand. C'était en février 1918, et la guerre s'est achevée le 11 novembre 1918. Ils croyaient encore à la victoire. Et ces Allemands hurlaient contre la puissance germanique. Ça avait commencé auparavant avec Friedrich Nietzsche, avec certains philosophes, mais les peintres et les poètes étaient furieux contre ce pan-germanisme dont ils ne voyaient pas d'issue. Si bien que le mouvement de Berlin était extrêmement agressif contre le propre gouvernement, ce qui explique que, plus tard, en écrivant leurs textes contre l'Allemagne, par exemple, Raoul Hausmann donnait vraiment la République de Weimar comme un panier de fascisme. Ce qui deviendra le nazisme plus tard. Et il a composé ça en 1922. Autodix représentait des gens avec une laideur infinie. Georg Grosch, ou Grose, lui représentait les puissants de l'armée avec des têtes de cochon. Et il y avait tout un monde de négations anciens. Il y avait même un Ukrainien, nommé Jefrim Golichev, musicien, qui a inventé la musique sérielle avant Schoenberg, avant Busoni, avant Richard Strauss. Et cet homme qui était très doux, très élégant, très très beau même, avait une haine tenace contre tout ce qui était le panier de crabe de l'Europe centrale, avec la complicité, hélas, des gouvernements environnants. Donc le climat de Berlin était impitoyable. Et il y avait parmi eux un psychiatre, Richard Hülsenbeck, qui était le plus indépendant possible, le plus indépendant possible, le plus agressif, et qui a refusé de faire entrer dans le club dada de Berlin Kurt Schwitters. Parce qu'il le trouvait trop bourgeois. Il le trouvait trop calme, pas du tout politisé, et pourtant, là, je ferai encore une petite parenthèse. Avec M. Raoul Hausmann, l'homme furieux dont j'ai parlé, et Schwitters, qui était très grand parti, je n'ai pas connu, Hausmann, je l'ai très très bien connu, il faisait des concerts dans toute l'Europe. Hausmann avec sa voix criarde d'un côté, et Schwitters, dont on va entendre la voix. Et la terre d'élection, où ils donnaient leur concert devant 30 000 personnes. C'était pas rien. Hein? C'était Prague. Prague qui était libre depuis 1919 seulement. Après des siècles et des siècles d'occupation, ou bien dans l'Empire austro-hongrois, et Prague avait besoin de cette liberté. Si bien que lorsqu'Adolf est arrivé au pouvoir, son cinquième ou sixième discours au peuple allemand, ça a été pour montrer les dadaïstes comme des Allemands dégénérés. Ah oui, un discours d'un chef d'État, c'était quelque chose de fabuleux comme climat. On peut écouter la ours sonatée qui est faite d'onomatopées, mais des onomatopées construites. Elles sont toutes mesurées et il y a maintenant une dizaine de lecteurs. L'extrait qu'on va entendre, ça a été enregistré en 1932 sur un 78 tours, il n'y avait pas de micro-sillon à l'époque, bien sûr. Alors maintenant, je pense qu'on peut écouter la diction, encore avec une petite note, c'était la même période où James, commençait à décomposer le verbe pour aller à Ulysse ou Ulysses, et Finnegan aussi. C'était vraiment un climat général qui se passait avec toutes les revues d'avant-garde dont l'exposition d'ailleurs ici parle.
You can't rinse the baby hints kermu, see you and set you rinse kermu, rack at baby. Rum to toe, see you and set you hints kermu, see you and set you rinse kermu, rack at baby, rack at bitsy. Fums bava te teo, o te te baby fums. O. B, 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 B. O, C, 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 C. O, rinse a cut a B, B. O, m-ta, m-ta. O, Torgel, pa 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 pa, oka, 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 oka. Lanka torgel, pi 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 pi, tuka, 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 tuka. Lanka torgel, rum, rum. Lanka torgel, tiulen trill, num, tum, trill. Lanka torgel, rum, tum, to. Lanka torgel, tiulen trill, num, tum, trill. Lanka torgel, pa 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 pa, oka, oka, oka. Oka, lanka torgel, pipi pipi pi, tuka, 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 tuka. Lanka torgel, rn, rn, lanka torgel. Tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu a. Tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu o. Tiu iu, tiu au, tiu iu. Lanka torgel, pa 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 pa, oka, 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 oka. Lanka torgel, pi 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 pi, tuka, 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 tuka. Lanka torgel, rum, rum. Lanka torgel, tiu lum tru, lum tum tru. Lanka torgel, rum tu tu. Lanka torgel, tiulen trill, lum tum trill. Lanka torgel, pa 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 pa, oka, 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 oka. Lanka torgel, pi 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 pi, tuka, 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 tuka. Lanka torgel, rum rum. Lanka torgel.
La poésie sonore elle-même, d'abord doit son titre, à poésie qui veut dire faire. Faire quelque chose, et non pas écrire des vers, ça c'est bon pour les professeurs, et une sonore en musique, c'est où les cordes vocales entrent en vibration. Si on peut faire une comparaison, avant le microscope, l'homme n'avait qu'un sang, il était rouge, et pour les nobles, il était bleu. Mais après le microscope, on a découvert que le sang rouge a des milliards de cellules. Pour la voix humaine, c'est exactement la même chose. Lorsque on a commencé, pour moi c'était contre l'Académie française, mais lorsqu'on a commencé à enregistrer, à découvrir les valeurs vocales qu'il y a dans la bouche et dans la respiration, nous n'avons plus 40 graphèmes et vocèmes utilisés, c'est-à-dire la voix et les graphèmes, ensemble, mais nous avons au moins 40 000 variations vocales. Et la poésie sonore, avec les machines, s'est trouvée embarquée dans un monde illimité de sensations, avec l'avantage que, contrairement à la lutherie électroacoustique pour la musique, nous avions une sorte de respiration continue qui pouvait être démultipliée. Et je me souviens que au début, en 1955, mes poèmes écrits et lus étaient lamentables, n'étaient pas faits pour la dimension de l'écoute. Mm-hmm. Par contre, la voix avait des propriétés qu'il fallait choisir et apprendre aussi. À l'époque, j'avais un petit magnétophone que j'avais emprunté, vitesse 9,5, et je tournais les bobines avec le doigt pour changer les vitesses. Il n'y avait qu'une vitesse sur magnéto. J'étais absolument ignorant des possibilités qu'il y avait. Avec un petit microphone carré aussi, qui était très primitif, qui n'existe plus maintenant. Et à force d'écouter cette voix, et la voix des autres, on s'est aperçu que cette poésie sonore était un champ d'investigation depuis les années 50 qui ne cesse pas. Ça va partout, mais dans les pays où il y a des machines.
Donc pour vous, ça paraît à peu près impossible de dissocier un peu la nouvelle technologie et la poésie sonore.
Ah oui, si on coupait demain l'électricité, vous n'auriez pas la possibilité de faire quoi que ce soit.
Mais nous espérons bien qu'il n'y aura jamais de coupure d'électricité pour que la poésie sonore continue. Nous sommes toujours en direct de la Friche Belle de Mai pour la fête de clôture de Poésure et Peinterie par les yeux du langage. Je vais de ce pas aller chercher Bernard Blisten. En attendant, musique.